les jardinières.
Après la pluie de la semaine, c'est un week-end plutôt ensoleillé qui nous attend. Un temps donc idéal pour le passer au jardin. Et avant de sortir, on va suivre les conseils des jardinières. Bonjour Noélie.
Bonjour Mylène.
Elle est comme les escargots, elle sort après la pluie, c'est Cathiou Racine. Bonjour Cathiou.
Bonjour.
Cathiou, vous êtes jardinière et guide de randonnée nature à Mervelier. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Merci d'être avec nous ce matin.
Bienvenue chez les jardinières, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h. Les jardinières.
Alors Cathiou, ce week-end, ce n'est pas seulement la fête des mères, c'est aussi les Saintes Glaces qui débutent. Alors on va commencer par une question que tout bon jardinier s'est déjà posée. Est-ce qu'il faut vraiment attendre, que les Saintes Glaces soient passées pour planter tomates, courgettes et compagnie? Ou c'est juste une vieille légende à dormir dehors? Bon, je ne dormirai pas dehors, il fait un peu froid.
Non, on peut dormir dehors si on est bien équipé, il n'y a pas de souci. Alors, les Saintes de Glace, au Jura, on dit toujours, c'est les Saintes Glaces. En fait, non, c'est pas les Saintes Glaces, c'est les Saintes de Glace. Et puis, oui, c'est une vieille légende, mais c'est également quelque chose qui est non négligeable, je pense. Si vous vous êtes levé ce matin, j'ai vu plein de gens qui faisaient du jogging au bord de la route. Je pense qu'ils ont bien ressenti les 2 degrés qu'il y avait en température ambiante. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe à peu près à cette période de l'année. Il faut savoir que les Saintes de Glace, ils commencent demain et puis ils finissent le jeudi 15. Pour les citer, il y a Saint-Mamère, Saint-Pancras, Saint-Servais, Saint-Boniface et puis ça se finit avec la Sainte-Sophie. Et puis, oui, moi je pense que c'est à prendre en considération parce qu'en fait, c'est une période où chaque année, si vous notez un petit peu quelque chose dans le calendrier, on remarque qu'il fait quand même très frais. Alors bien sûr, pour tous les légumes qu'on a plantés, tels que les oignons, les ails, les choses qui sont sous terre, peut-être des choses, des choux, des choses comme ça, c'est pas vraiment un problème. Mais pour les plantes qui viennent plutôt, habituellement, qui poussent plutôt plus au sud, ben comme vous l'avez dit, les courgettes, les tomates, toutes ces choses-là, vaut mieux les garder à l'intérieur, peut-être faire des beaux plantons ou même les acheter dans les commerces, ça c'est pas un problème. Les garder à l'intérieur, puis laisser passer cette période. Pourquoi ? Parce que ces plantons se fragilisent avec le froid. Et puis, ils ont une période où, juste après, il vient ce chaud et souvent, ils attrapent des maladies là. Donc, ce n'est pas très utile de les planter juste avant pour qu'ils soient malades 10 jours après. Autant les garder 10 jours tranquillement à l'intérieur.
Merci Cathiou, vous restez avec nous jusqu'à 8h et vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Et pour poser vos questions justement, vous pouvez nous appeler au 0 900 1 70 20 20 et vous aurez la chance de parler directement à Cathiou. On attend aussi vos questions par SMS, il faut taper jardin, laisser un espace suivi de votre question et de votre nom. Vous nous envoyez le tout au 939 ou vous pouvez également vous rendre sur notre site internet, remplir le formulaire avec une possibilité de joindre une photo.
7h, 8h. Les jardinières.
Chez les jardinières, en général, on parle de légumes, des arbres, bref, des végétaux. Ce matin, Cathiou, vous allez nous parler d'un des habitants de nos potagers, l'escargodé, qui porte aussi le nom scientifique de, attention, tenez-vous bien, Sepae nemoralis. Voilà. Et pour commencer, pourquoi avoir choisi de nous parler de ce petit, tout petit gastéropode ?
Ben, je pense qu'il est important parce que finalement, il fait partie de nos jardins à part entière. On le voit tout le temps. On ne sait pas trop s'il faut le laisser, s'il faut l'enlever, s'il y en a qui s'amusent à les écraser. Alors ça, ce n'est pas bien du tout. Mais voilà, ça reste un petit peu mystérieux. Tout d'un coup, il est là pendant 10 jours à la même place. Après, enfin voilà, je trouve que c'est intéressant de parler de cette petite bestiole qui est dans nos jardins, puis qui est très jolie à voir en plus.
Alors justement, Cathiou, c'est quoi exactement cet escargodiae ?
Alors l'escargodiae, faut savoir déjà qu'il fait partie de la famille des Helicidae. Et puis c'est un des rares animaux de nos jardins qui est natif d'Europe. Parce que souvent on parle des choses qui sont venues d'Asie ou je ne sais pas trop d'où. Mais là en fait il est natif d'Europe. Puis il faut savoir aussi qu'il y a quand même 254 espèces de gastéropodes qui ont été identifiées en Suisse à ce jour. Et ce petit gastéropode, il colonise pratiquement tous les milieux naturels de Suisse, c'est-à-dire qu'il passe des eaux souterraines aux lacs, aux rivières. les forêts, les prairies, et puis il va même en montagne. Bon, il monte jusqu'à 900 mètres, mais quand même. Et on en a même trouvé aussi en bord de mer, mais après, bien sûr, ceux-là, ils ont une petite mutation génétique qui leur permet de vivre dans des endroits quand même plus chauds. Et puis, si on le regarde, il est souvent variant du jaune au brun. Des fois, il est un peu rougeâtre. Et il a vraiment des jolies couleurs. Et puis, sur son dos, donc il porte sa coquille. Cette coquille, elle a une espèce de spirale plus ou moins épaisse qui va aussi du brun au rougeâtre. Et puis, si on le retourne, on peut vraiment le distinguer des autres escargots parce que sur le liseré de sa coquille, donc là, à l'intérieur où il rentre son corps, en fait, c'est toujours brun ou rouge. Donc c'est vraiment, quand on voit cette ligne dessous, ça veut dire que c'est un escargot des haies.
Il y a une question qu'on se pose souvent, les escargots des haies, mais comme tous les escargots, ils sortent après la pluie. Pourquoi ?
Alors en fait, pour lui, c'est une question de vie ou de mort de sortir après la pluie. On a tous vu qu'un escargot laisse des traînées de bave, comme on appelle ça. D'ailleurs, il y a même des cosmétiques qui se font maintenant à la bave d'escargot. Miam. Et puis en fait, Quand il doit se déplacer, parfois il doit quand même se déplacer quand il fait sec et puis il doit produire énormément de ce mucus, de cette bave. Et en fait, pour produire ce mucus, il a besoin d'eau. Donc en fait, le fait de sortir quand il pleut lui permet de faire des réserves d'eau et puis ces réserves d'eau lui permettent de se déplacer également quand il fait sec. Et puis vraiment, on remarque aussi chez nous quand il fait très longtemps sec ou bien chaud ou froid, bah, l'escargot en fait, il reste enfermé dans sa coquille, dans sa maison, et il produit son mucus, il produit son bain de bave, et puis il reste vraiment recroquevillé dans sa coquille pour se protéger. Et puis ce mucus, c'est aussi assez génial, c'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ce gastéropode qui est fascinant, c'est qu'en fait, il peut produire le mucus, il peut le changer la consistance par rapport au sol sur lequel il se promène. C'est-à-dire que s'il devra traverser une route goudronnée qui est très rugueuse pour lui, ben il va produire un mucus qui est très épais, très baveux pour ne pas se blesser. En fait. Donc il peut vraiment produire son mucus pour ne pas se blesser ou ne pas mourir.
7h, 8h, les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin dans votre radio. Ce matin, nous sommes en compagnie de Katiou Racine et on parle d'escargots des haies. Alors, vous nous avez parlé de cette petite espèce qui est toute petite, qui produit quand même beaucoup de mucus. Alors, Katiou, on les trouve souvent dans nos jardins. C'est quoi le rôle de cet escargot des haies dans le jardin, dans l'écosystème en général ?
Alors l'escargot, ce qui est bon à savoir, c'est que si on l'observe un petit peu quand il est en train de se balader, à savoir qu'il fait du 9 mètres à l'heure. Hein. Alors quand un escargot est au bord de la route, ne le mettez pas de l'autre côté parce que peut-être qu'il a passé 5 heures de sa vie à traverser. Hein. Non, quand on le regarde, il y a deux petites cornes. En fait, au bout, ben, il y a les yeux. En bas, il y a deux autres petites cornes, puis une bouche qu'on voit bien. Les petites cornes du bas lui servent à se diriger. L'escargot voit très mal, en fait. Donc, il va se diriger en goûtant. Alors, avec sa langue râpeuse, qu'on appelle aussi le radula, l'escargot des haies, en fait, il se nourrit beaucoup de végétaux morts ou bien fanés, de champignons, beaucoup de mousse. Il aime beaucoup les lichens, la mousse. Et puis, des fois, il mange même des restes de petits animaux. Donc, en fait, il fait partie de la diversité des êtres vivants qui décomposent la matière organique. Donc, c'est vraiment important, je souligne cette phrase, c'est important de le laisser dans son jardin parce qu'il va vous aider à décomposer certaines... Vous coupez un poreau dans le jardin, vous défaites les feuilles sur place, vous les laissez dans un coin. L'escargot, il va commencer par se nourrir de ça. Lui, il aime ce qui est en train de se décomposer. Donc, c'est ça qui l'intéresse. Donc, il va vous aider à nettoyer votre jardin, puis à produire, à constituer de l'humus, finalement. Et puis, moi, j'aime bien l'appeler, je l'ai déjà vu plusieurs fois, on l'appelle le faiseur de sol, parce qu'il aide vraiment à régénérer ce sol en mangeant, en se nourrissant, en fait.
Et pourtant, on dit souvent que les escargots ne sont pas les grands amis des jardiniers et des jardinières. Mais est-ce qu'au final, ce petit escargot, il pose problème pour les plantes et les potagers ?
Alors, bien sûr que si vous venez de planter des bonnes petites salades toutes fraîches dans votre jardin qui est bien nettoyé, bien désherbé, bien aseptisé, puis que vous avez mis plein de produits chimiques pour qu'il n'y ait plus rien du tout dans le jardin, évidemment qu'il va aller manger les salades. Hein. Ça, c'est logique. Mais il faut vraiment, c'est là que c'est important de se dire, il faut arrêter de nettoyer ces jardins, d'en faire des endroits complètement aseptisés. Laissez un peu des choses sur place, faites des petits tas. Ils vont venir s'occuper de ça, ils vont enrichir votre jardin aussi en biodiversité, ça va vraiment s'enrichir. Et puis, il faut savoir que ces petits gastéropodes, c'est aussi des super alliés au jardin parce qu'ils mangent les œufs d'autres gastéropodes. Par exemple, les limaces, ils vont se nourrir des œufs des limaces. Donc, il faut plutôt les faire venir que les faire fuir. Et puis, attention avec les granulés anti-limaces parce que, bien sûr, si un escargot va sur les granulés anti-limaces, ben, il va aussi mourir. Donc, essayez d'éviter d'utiliser trop de granulés anti-limaces. Je sais bien que ce n'est pas évident d'avoir un jardin vraiment sans aucun granulé bleu. On sait bien ce que c'est, ces petits granulés bleus. Mais il faut vraiment les utiliser avec parcimonie.
Les jardinières.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant chez Les Jardinières. Nous sommes en compagnie de Catu Racine, jardinière et guide de randonnée nature à Mervelier. On peut vous suivre, Catu, sur les réseaux sociaux sous le nom de Rendez-vous avec soi-même. Et en votre compagnie, on découvre un tout petit habitant de nos potagers, l'escargot des haies. Et bien sûr, nous prendrons le temps de répondre aux questions des auditeurs.
Justement, vous avez trois possibilités pour poser vos questions. Tout d'abord par téléphone en composant le 0 901 70 20 20, et vous aurez la chance de parler directement à Catu. Vous pouvez également nous envoyer une photo avec votre question, et ça se passe par formulaire que vous trouvez sur notre site. Ou la troisième manière de s'y prendre, c'est de nous envoyer un SMS au 939. Vous tapez jardin, laissez un espace, puis vous posez votre question et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Catu, on parle de l'escargot des haies qui a été élu par Pronatura l'animal de l'année 2025. Vous nous avez dit que c'était un petit faiseur de sol. Du coup, on va laisser son hélicyphobie, c'est la peur des escargots et des limaces, de côté, et on va plutôt les attirer dans nos potagers. Comment est-ce qu'on peut faire pour en avoir plus ?
Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a dit auparavant, il aime bien, en fait, quand c'est humide et frais. Donc, on va essayer de recréer ces conditions-là dans notre jardin. Donc, vu qu'il est attiré par l'humidité, par les plantes qui gardent le frais et puis un sol plutôt humide, on va essayer dans notre jardin potager de lui créer des petits endroits de refuge, en laissant justement, comme je l'ai dit avant, un peu cette nature au milieu de cette structure de potager, parce que c'est quelque chose qu'on peut très bien mélanger. On va laisser, par exemple, un grand massif de fleurs, des fleurs indigènes, bien sûr, où on aura peut-être du muguet, des ancolies. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore ? On pourrait avoir des nigelles, par exemple. Puis à côté, on pourrait laisser une haie vive, aussi avec des arbustes indigènes de nos régions. Bien sûr qu'on ne va pas planter des lauriers et puis faire une grande haie de hauts lauriers parce que ça ne vient pas de chez nous. Donc il y a vraiment plein de choses qu'on peut se procurer, même en forêt. Hein. On peut très bien aller prendre quelques encolis, quelques graines, ou prendre une plante en forêt et puis commencer de recréer un petit peu un habitat pour ce petit gastéropode. Il a toute sa place dans notre jardin.
Est-ce que les escargots des haies ont des prédateurs naturels ?
Oui. Il en a même beaucoup. Il aura, nous, les premiers, l'être humain, qui va bien sûr commencer par pulvériser plein de produits dans son jardin, mettre des granulés anti-limaces. Parfois, on leur marche dessus, même sans faire exprès. Faut savoir que si un escargot a la chance de vivre toute sa vie, il vit à peu près 6 ans. Et puis, c'est rare qu'ils arrivent au bout des 6 ans parce qu'entre autres, il y a aussi les oiseaux qui les mangent. Il y a les hérissons qui adorent les escargots. Il y a les crapauds, il y a les lézards, il y a certains mammifères. Et puis, l'escargot, il a une chance, justement, cet escargot des haies, c'est qu'il a réussi à faire un mimétisme avec sa coquille au fur et à mesure des années, à s'adapter à son milieu naturel et puis un petit peu à se cacher. Donc il a beaucoup de prédateurs, mais parfois quand on en cherche, on n'en trouve pas parce qu'on ne les voit pas en fait.
C'est pour ça qu'il a une coquille parfois rayée, parfois unie, pour s'adapter à son univers.
Oui, exactement. C'est vraiment. Alors, il faut savoir que elle peut être rayée ou unie. Bon, il y a déjà des facteurs génétiques et puis aussi justement ces facteurs d'environnement. Selon dans quel environnement il est, c'est clair que s'il est dans un lac souterrain ou s'il est dans notre jardin, il devra se cacher différemment. Donc, en fait, il s'est adapté dans les milieux dans lesquels il a prospéré. Il a changé sa couleur de coquille. C'est pour ça qu'on a du jaune au brun en passant par le un petit peu rougeâtre. Et puis, c'est vraiment des traits qui sont hérités puis de la sélection naturelle. Et puis, il faut savoir que la plupart des escargots des haies ont une coquille qui tourne à droite. Si vous regardez une fois un escargot des haies, sa spirale va à droite. En général, c'est 5 spirales maximum. Et puis, certains spécimens, ils sont gauchers, en fait. Ils ont la coquille qui est enroulée vers la gauche. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que les organes internes sont aussi tout inversés chez eux. Et puis ceux-là, on les appelle des escargots senestres. Donc c'est un petit peu des exceptions, ils ont la coquille qui tourne dans l'autre sens. Donc demain, si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, vous pouvez aller en forêt chercher des escargots senestres.
Cathy, tout à l'heure, vous avez dit que les escargots vivaient en moyenne 6 ans. Mais alors durant l'hiver, quelle est la stratégie de survie de ces escargots ?
Alors en hiver, ils ont besoin de soit de s'enfouir dans le sol, soit de se cacher sous des feuilles, ou alors de se mettre, on les trouve parfois aussi sous des tas de planches, enfin des endroits encore une fois qui restent un peu humides. Donc c'est aussi important dans son jardin, si on veut, je dis bien si on veut avoir des escargots, de leur laisser un petit peu ces endroits naturels, pas toujours ramasser les feuilles ou peut-être faire un petit peu d'état à gauche à droite, il y a plein de petits insectes qui peuvent aller se cacher pour l'hiver. Et puis pour se protéger du froid, ben encore une fois, il va produire ce mucus en grande quantité, cette bave, et puis il va boucher l'entrée de sa coquille, il va fermer sa maison à clé et ça va durcir et puis il va pouvoir passer l'hiver tranquillement, encore une fois grâce à ce mucus. C'est pour ça qu'ils ont vraiment besoin de ces endroits qui sont très humides. C'est vraiment une question, comme j'ai dit avant, de vie ou de mort.
Et pour terminer, Cathy, est-ce que vous avez une petite recette à nous partager à base d'escargots des haies ? Non, bah, ils sont trop petits pour être mangés. Non, plus sérieusement, après toutes vos explications, sachant que c'est aussi l'animal de l'année 2025, qu'est-ce qu'il faut retenir d'important sur ces escargots des haies ?
Alors, l'escargot des haies, il est très, très, très répandu, mais il a très peu de considération. C'est vrai qu'on parle toujours beaucoup d'autres animaux, d'autres insectes qui sont spectaculaires, qui vont vite, qui sont des grands prédateurs, mais l'escargot des haies, finalement, ben, il est peu considéré, mais il est super utile pour tout ce qu'on a discuté avant, pendant l'émission. Mais il faut aussi savoir que le jour où c'est qu'il n'habite plus sa coquille parce que, ben, voilà, il est parti ailleurs, on sait pas où, il sert encore à quelque chose. Par exemple, l'abeille maçonne va aller faire son nid dans la coquille vide. Il y a d'autres espèces comme les cloportes ou bien les araignées qui utilisent également les coquilles vides pour aller se réfugier ou bien pour aller poser leur quartier d'hiver. Donc, il est vraiment utile jusqu'au bout. Puis, en plus, je pense que quand on était petit, on a tous ramassé des escargots qu'on a mis dans un bocal et puis que notre maman ne trouvait plus au bout de 3 heures parce qu'ils étaient collés sous la table. Et puis, je trouve que c'est assez rigolo d'en parler.
7h, 8h, Les Jardinières.
Vous écoutez Les Jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Notre invitée Cathy Racine est avec nous et elle est prête à répondre à vos questions jardinage. Vous pouvez encore nous appeler au 0900 70 20 20. Vous parlerez en direct avec nous. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo via le formulaire disponible sur notre site ou alors un petit SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, votre nom, vous nous l'envoyez au 939. Noélie, je crois qu'on a reçu une première question. Une question par formulaire qui nous vient de Suzanne de Bienne. Elle nous parle de son camélia sur son balcon. Il ne fleurit pas, seules les feuilles repoussent. Les boutons de fleurs sèchent et tombent avant la floraison. Elle nous demande que faire.
Alors, il faudrait peut-être déjà savoir si ce camélia est depuis longtemps dans le même contenant. Ça serait déjà peut-être une bonne idée de lui remettre un nouveau substrat. Bien souvent, quand on achète une plante ou qu'on reçoit une plante, ben, on la met, c'est très joli, ça fonctionne, puis il se passe 1 année, 2 ans, 3 ans, et puis on oublie un petit peu de leur donner à manger. Donc, changer le substrat, lui mettre un petit peu d'engrais aussi, mais d'abord le substrat, après laisser 1 mois, 1 mois et demi, parce que les substrats nouveaux sont souvent déjà enrichis. Et puis après, mettre un petit peu d'engrais. Et puis, il y a quelque chose qui fait vraiment sécher ces boutons floraux, c'est l'eau qui est trop calcaire. Donc vraiment, attention à essayer d'arroser avec de l'eau de pluie. Il se peut que ce camélia, tout d'un coup, soit vraiment à l'abri sur un balcon et puis qu'elle soit arrosée avec de l'eau qui est bien calcaire. Alors ça peut vraiment être un problème non négligeable. Et parfois aussi, le manque d'eau fait que les boutons sèchent. En fait, la plante arrive à vivre plutôt correctement, puis elle fait des feuilles. Mais en fait, le manque d'eau provoque en fait un dérèglement de la plante et puis elle n'arrive pas à faire les deux en même temps. Donc elle va faire de la feuille parce que c'est avec ça qu'elle vit à cause de la photosynthèse, puis elle va négliger les fleurs en fait. Elle va les produire mais les faire sécher. Donc il y a ces deux facteurs-là, peut-être un manque d'eau et puis arroser avec de l'eau de pluie, puis changer le substrat aussi, ça serait pas mal.
Merci Katiou pour ces bons conseils. On a reçu une photo de Josette de Corgémont avec 33 spécimens trouvés dans un pot rempli de terre au mois d'avril. Elle aimerait savoir ce que c'est et comment les éradiquer. Alors sur la photo, on voit des espèces de vers. Moi, chapeau, hein, Josette, parce qu'elle les a comptés quand même. Alors Katiou, dites-nous, qu'est-ce que ça peut bien être, ces gros vers blancs?
Alors ça va être l'instant glamour de l'émission des jardinières. Je vous explique. Dans ces larves, il existe deux sortes de larves. Il y en a une qui est destructrice pour ce qui est dans le pot et l'autre pas du tout. Celle qui est destructrice, c'est la larve du hanneton, et celle qui ne l'est pas, c'est la larve de la cétoine. Pour les reconnaître, c'est assez simple. Attention, tenez-vous bien. Grande tête, petit cul, ça c'est la larve du hanneton. Petite tête, grand cul, velu avec des poils sur le dos, c'est la larve de la cétoine. Donc j'espère que vous avez bien pris note. La cétoine, donc, c'est celle-là qui est sur la photo, qui a tout pour plaire. Donc, elle n'est absolument pas destructrice. Elle va plutôt, comme l'escargot est, se nourrir de vieilles feuilles, de vieux déchets. Des racines, oui, mais des racines qui sont déjà mortes, elle ne va absolument pas faire mourir la plante. Maintenant, il est bien clair que si ces 33 larves sont dans un pot de 30 cm de diamètre, il va y avoir un problème d'équilibre. Exactement. Donc, elles ont aussi tendance à se développer assez facilement, justement, dans des vieux terreaux. En général, si on prend des terreaux qui sont assez frais, ben, ça n'arrive pas, ou des endroits qui sont plutôt humides, frais. Donc, bien drainer le pot dans le fond, mettre des billes d'argile ou ce que vous trouvez, des cailloux. Ensuite, la terre, donc il ne reste pas d'eau, que ça reste bien drainé, que ça ne soit pas trop frais. Donc peut-être tirer un petit peu le pot au soleil si possible, surtout maintenant au début de l'année où on n'a encore pas trop de chaleur. Et puis voilà, il faut vraiment changer ce substrat. Mais je suis un tout petit peu étonnée quand même parce que là, elle nous dit qu'elle a rempli son pot au mois d'avril, donc il y a un mois. Et puis je pense que ce n'était pas du terreau frais. Je pense que c'est pour ça que ça s'est développé aussi rapidement. Normalement, c'est plutôt dans des pots qui sont en place depuis plusieurs mois ou plusieurs années.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous avons parlé des petits faiseurs de sol, les escargots des haies. Pour écouter l'émission, rendez-vous en cours de matinée sur notre site. Katiou, il est presque temps de se dire au revoir, mais avant de vous laisser filer, qu'est-ce qu'on fait ce week-end au jardin ?
Alors, ce week-end au jardin, on prend une bonne paire de ciseaux, attention les doigts, on va couper quelques fleurs dans le jardin, puis on fait un beau bouquet pour maman. Et puis, je vais finir l'émission par un petit dicton concernant les saints de glace. Saint Mamère, Saint Servet et Saint Pancras, de leur passage, laissent souvent trace.
Merci Cathy pour votre visite et vos mots. On rappelle que vous êtes jardinière et guide de randonnée nature à Mervelier. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux sous le nom Rendez-vous avec soi-même.
Merci Katiou, bon week-end. Et la semaine prochaine, nous parlerons de champignons. Cette fois-ci, nous serons en compagnie de Gaëlle Mona, contrôleuse à la WAPCO. On parlera entre autres des différents modes de vie des champignons. Ça sera la semaine prochaine dès 7h chez les jardinières. Bon week-end Noélie.
Bon week-end Mylène.
Bon week-end Katiou. Et bon week-end à toutes et à tous.
Bon week-end.
7h, 8h, les jardinières.